Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, un capitalisme social, éthique et pourquoi pas écolo est-il possible? La question ressurgit donc après l'éviction du patron de Danone, l'emblématique Emmanuel Faber, qui a donc été remercié pour manque, dit-on, de rentabilité. D'ailleurs, il part sans bonus et sans parachute doré, car il y avait lui-même renoncé. Alors, peut-on être un grand patron, diriger une multinationale, faire plaisir aussi aux actionnaires, car c'est le sens de l'entreprise, et appliquer une politique éthique et responsable? On en parle donc ce soir avec nos invités. Bonsoir Pascal Demurgé.
Bonsoir,
vous êtes directeur général du groupe Maïf, et vous allez justement nous expliquer que oui, c'est possible, a priori. Bonsoir Jérôme Barthélémy. Vous êtes directeur général adjoint et professeur de stratégie et management à l'ESSEC, auteur de « Libérer la compétitivité, comment parvenir au sommet et y rester ?» Ça n'est pas rien,
absolument.
Aux éditions Personne, sorti il y a 4 ans. Et puis Alexandre Malafaille, que chacun connaît au micro d'Europe Soir, nous accompagne, président du think tank Sinopia, entrepreneur et essayiste. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Julien.
Alors d'abord, en quelques mots, Pascal Demurgé, pourquoi vous dites que oui, c'est possible d'être un grand patron et de faire du social?
Je dis que non seulement c'est possible, mais c'est indispensable. Je crois que c'est indispensable face tout simplement aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, hein, que ce soit en effet des problèmes sociaux ou des problèmes écologiques. Il faut impérativement que les entreprises s'engagent et recherchent un impact positif sur leur environnement. Et par ailleurs, en effet, c'est possible.
Oui.
C'est possible pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a une attente sociale qui est tellement forte, qui est en train de monter. Les gens attendent de l'entreprise qu'elle s'engage. Regardez, tous les sondages le disent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que client, la majorité des personnes sont prêtes à modifier leur comportement et à s'adresser plutôt à des entreprises plus vertueuses.
Oui.
En tant que salarié, aujourd'hui, il est très difficile de fidéliser ou d'attirer des jeunes talents si on n'a pas effectivement un réel engagement.
Alors vous, à la Maïf, vous avez fait quelque chose d'assez surprenant. Vous avez décidé de rembourser à vos clients les primes auto, je crois, lors du premier confinement, étant donné que personne n'avait la possibilité d'utiliser sa voiture. Vous dites, en somme, c'est de la solidarité. Il était hors de question de tirer un bénéfice de la crise sanitaire. Résultat, vos résultats financiers, alors c'est pas que lié à cette prime, mais ont été divisés par 4 sur l'année 2020. Mais vous dites, c'est pas une grosse perte parce qu'on a fait de la solidarité.
Exactement. Et je trouve que pour un assureur, rembourser les primes d'assurance automobile en plein confinement, alors qu'il n'y a plus de circulation automobile par hypothèse et donc plus d'accidents, ça n'est pas quelque chose de surprenant, c'est quelque chose de normal.
Ouais. Et pourtant, vous savez, il y a plein d'auditeurs et d'auditrices qui doivent nous écouter, qui se disent, ok, la Maïf, ils se sont achetés un bon coup de com', être une entreprise avec une vocation environnementale, c'est bien, mais tout ça, c'est pour s'acheter une belle conscience. Regardez ce qui est arrivé au patron de Danone, il a voulu en faire trop, et puis il s'est fait virer.
C'est vraiment pas le sujet, la communication. Vous l'avez dit, j'avais fixé une règle en interne très claire au début, il y a un an, au début du premier confinement, qui était de dire il est hors de question, a fortiori en tant qu'assureur où on est là pour absorber les chocs. Il est hors de question de tirer un quelconque profit de la crise. À partir du moment où on fixe une posture éthique, j'allais dire, derrière, les décisions coulent d'elles-mêmes.
Mais vous pouvez le faire parce que vous n'êtes pas un groupe coté, vous n'êtes pas sous la pression des actionnaires, vous n'êtes pas sous la pression des fonds d'investissement, parfois même les fonds vautours, on va expliquer et en parler.
C'est tout le sujet. Moi, je suis convaincu, et je crois que nous sommes en train de le démontrer à la Maïf, qu'en réalité, l'engagement, ça crée de la performance. Mais ça ne crée de la performance que sur le moyen terme. Et en effet, à court terme, face à des fonds vautours, face à des fonds activistes, qui réclament des rendements à 2 chiffres et de manière immédiate, ça peut être compliqué.
Oui.
Et c'est la raison pour laquelle, je crois, il faut aussi que l'État accompagne ces entreprises qui tout simplement s'engagent pour la cité.
C'est ce qui s'est passé, Jérôme Barthélémy, chez Danone. C'est ça vraiment qui a poussé les fonds à mener cette politique pour éjecter le patron Emmanuel Faber, qui était PDG du groupe, qui menait une politique. Alors, on peut discuter de l'intérêt de cette politique, après, qui menait une politique plutôt sociale, plutôt environnementale, avec un certain nombre de vertus, notamment sur le manger local de l'ensemble des produits Danone distribués, par exemple, sur le marché français. Mais il n'y avait pas assez de rentabilité.
Alors l'affaire Danone, ce qu'elle révèle finalement, c'est qu'est-ce qui détermine la longévité des PDG, en fait, qui peuvent rester à leur poste. Alors là, à ce jour, le facteur principal, c'est effectivement la performance économique des entreprises. Hein. Ça a été démontré. Après, la question qu'on se pose parfois, c'est est-ce que la RSE, pour le devenir, on va dire, d'un dirigeant, est-ce que ça raccourcit sa durée de vie, on va dire, est-ce que ça la rallonge? Et là, les résultats des recherches sont assez intéressants. Ça n'a pas vraiment d'impact, en fait. Hein. Donc, les marchés ne vont pas pénaliser, en fait, un dirigeant qui fait de la RSE. Ils ne vont pas non plus le valoriser. L'effet un peu plus subtil, c'est-à-dire qu'il renforce...
La RSE, peut-être préciser pour nos auditeurs.
La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est le fait d'être, effectivement, de prendre en compte l'environnement, les parties...
D'être vertueux. Voilà. Hein. Alexandre Malafaï, même question d'abord sur Danone et puis on marquera une première pause. On voit que le groupe, hein, malgré la crise, en 2020, affichait un bénéfice net de près de 2 milliards, 14% de marge tout de même, enfin, ça n'est pas rien quand même. Alors c'est vrai que le cours de bourse de Danone a progressé moins que ses concurrents, 3% seulement depuis 2014, quand Nestlé grimpait de 45% et celui d'Unilever de près de 70%. Mais là, on voit bien qu'on arrive aux limites du système. C'est-à-dire que les actionnaires et les fonds sont d'accord pour faire du social, de l'environnemental, mais quand ça crache pas assez, pardon de parler comme ça, on change de patron.
Il y aura encore pendant un certain nombre d'années des grandes tensions liées aux investisseurs, liées au capitalisme tel qu'il est. Mais malgré tout, il y a une tendance de fond qui est là, qui remet en cause le modèle de Friedman, qui disait que, d'une certaine façon, voilà, la finalité de la boîte, c'était de produire de l'argent pour ses actionnaires. C'est ça, ça évolue. Parce qu'aujourd'hui,
la seule responsabilité sociétale de l'entreprise est d'accroître ses profits. Voilà
ce qu'il déclarait. Ce qui était d'ailleurs dans le code civil, dans son article 1833. Voilà. Mais aujourd'hui, on surfe sur une tendance mondiale. Ça part depuis l'ONU, depuis ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, qui sont déclinés à l'échelle des pays, qui sont déclinés en France avec la loi PAC, qui a permis effectivement à la Maïf et à d'autres de s'engager dans le domaine de l'entreprise à mission. Donc on est sur une tendance de fond qui est mondial, et on est en train d'inventer un nouvel équilibre. Alors bien sûr, il y a des résistances terribles, parce que la profitabilité et le court terme, c'est très tentant. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on ne peut pas gouverner une boîte aujourd'hui sans prendre en compte le moyen et le long terme. Et donc, ça veut dire qu'il faut corréler la performance de l'entreprise à l'aune de ses responsabilités avec ses parties prenantes.
Question centrale de ce débat, on marque une pause et puis on en débattra dans quelques secondes. 19h29 avec nos invités, à tout de suite. 19h32, on poursuit notre débat sur le capitalisme à visage humain avec toujours nos invités, Pascal Demurger notamment, directeur général du groupe Maïf. Tiens, je voudrais vous faire réagir à ce qu'on a dit juste avant sur le cas Emmanuel Faber, et puis après on avancera aussi sur la suite. Ce débarquement, alors il y a évidemment plein de raisons pour lesquelles il a été débarqué par les fonds d'investissement, mais Emmanuel Faber était devenu d'une certaine manière le symbole d'un capitalisme un peu renouvelé, patron jeune, moderne, cool, engagé, qui disait d'ailleurs « You rock », vous assurez à ses équipes, emblème d'un nouveau patronat social d'une certaine manière. C'est un symbole quand même, le fait qu'il ait été dégagé ainsi par des fonds d'investissement étrangers d'ailleurs.
Oui, mais bien sûr, et c'est bien de ce symbole dont on parle là. Hein, et de quoi est-ce le symbole? C'est le symbole quand même de cette tension qui continue d'exister à court terme entre, en effet, on le disait tout à l'heure, des exigences financières un peu folles et une
Pourquoi
vision...
Pourquoi un peu folle?
Un peu folle parce que vous ne pouvez pas... Vous l'avez dit, 14% de rentabilité de Danone,
oui.
Et vous avez encore des actionnaires qui considèrent que c'est insuffisant. Mais ça veut dire quoi?
Quoi l'objectif d'une entreprise? Parce que ça pose une question presque philosophique. Hein. Une entreprise, quelle est sa vocation? Est-ce que c'est créer de la richesse pour ses actionnaires? Moi, je pensais que c'était ça quand même l'idée. Ou est-ce que c'est faire du bien à la société?
Je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise a forcément une responsabilité qui va au-delà de ses seuls actionnaires. La vision de Friedman de l'entreprise au bénéfice de ses seuls actionnaires est une vision qui commence à être dépassée aujourd'hui. Et je pense que si vous interrogiez une majorité de Français dans la rue, ils vous diraient qu'en effet, l'entreprise a une responsabilité qui est plus large, qui ne peut pas contrevenir à la rentabilité et à la pérennité. En tant que patron, moi je suis patron, je ne suis pas idéologue. Et donc, on a en tant que dirigeant une éthique de responsabilité qui fait qu'on est évidemment d'abord attaché à la pérennité.
Alors, je dis ça parce qu'il y a quelque chose qui a changé quand même depuis 2019, c'est la loi PAC avec les entreprises à mission. Et c'est le cas notamment pour le groupe Maïf, dont vous êtes le patron, 145 entreprises. D'ailleurs, c'était le cas aussi pour le groupe Danone. C'est le cas pour Aigle, le groupe Rocher, la Camif, Invivo. Enfin voilà, il y a 145 entreprises françaises. Qu'est-ce que ça change, ça, Jérôme Barthélémy? Ça redéfinit d'une certaine manière le rôle et la mission d'une entreprise qui doit se trouver une vocation sociétale, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour l'égalité homme-femme, pour la promotion des minorités, par exemple.
Alors effectivement, il y a deux façons. Une entreprise, ce dont elle a impérativement besoin, c'est d'une raison d'être. Elle peut être sociétale ou pas, mais c'est crucial d'avoir cette raison d'être. Alors effectivement, les entreprises à mission, c'est un cas finalement assez particulier, qui a beaucoup, beaucoup d'avantages. Mais ce qui manque dans beaucoup d'entreprises, c'est cette sorte de raison d'être centrée souvent sur les clients. Finalement, ça empêche l'entreprise de se propulser vers de bonnes performances.
Ouais.
Alors si on rentre même plus dans le détail, on pourrait dire qu'il y a une sorte de paradoxe. Plus l'entreprise finalement parfois cherche à être rentable, moins elle va l'être en fait. C'est vraiment une sorte de paradoxe. Si on met en avant effectivement peut-être les parties prenantes, l'aspect social, on va être peut-être plus rentable in fine.
Alors Alexandre Malafaille sur ce point, et puis après on prendra un peu un premier témoignage.
Non mais la performance de l'entreprise, je le disais, elle doit être corrélée vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et il y a une attente de fond aujourd'hui, qui est en fait l'attente des citoyens et des consommateurs, qui va exercer une pression de plus en plus accrue sur l'entreprise et qui va regarder de manière de plus en plus précise pourquoi l'entreprise prend des engagements, mais surtout comment elle est réalisée. On va s'intéresser à l'impact de ce qu'elle fait. Et ça, c'est une vraie clé.
Enfin, mais on en parlera tout à l'heure. La rémunération des grands patrons, elle n'est pas toujours corrélée à la bonne santé de l'entreprise.
Mais là encore, la rémunération des grands patrons, comme tout le reste, en fait, ce que les gens vont regarder de plus en plus, et ce que nous, on regarde avec Sinopia aujourd'hui, c'est la transformation responsable de l'entreprise. Mmh. C'est-à-dire, quelle est la tendance? Il peut y avoir des problèmes, mais est-ce qu'à un moment donné, on les corrige? Et l'engagement responsable de l'entreprise, c'est de dire, OK, on a une réalité, on a des situations qui sont plus ou moins satisfaisantes dans certains domaines, peut-être les écarts de rémunération, peut-être l'équité, la parité, etc. Est-ce qu'on y travaille? Est-ce que ça bouge? Bien. C'est ça qu'il faut mesurer.
Alors, Bastien Bruny est avec nous, président et fondateur de Solicom. C'est une agence de conseil et de communication. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour votre témoignage. Vous avez environ 30 jeunes qui sont passés par chez vous, qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité dans de grandes agences. Et vous avez décidé, on parlait d'entreprises à mission, vous avez décidé de promouvoir, vous, des jeunes qui viennent de quartiers prioritaires notamment, car vous vous êtes aperçu que le milieu de la com était plutôt homogène et que ça faisait du bien à la fois aux entreprises et aux personnes concernées.
Oui, absolument. J'ai un peu renversé la réflexion. Je suis parti d'un facteur de performance que j'avais identifié, effectivement, c'est cette diversité-là, et j'en ai fait une entreprise. Donc la perspective un peu inversée, effectivement.
Ouais. Et vous arrivez à concilier, on n'est pas sur des enjeux comme des groupes du CAC 40, mais vous arrivez à concilier la recherche de rentabilité, la performance, le profit quand même, et puis en même temps cette approche sociale de l'entreprise?
Oui, absolument. Enfin, après, j'écoutais avec beaucoup d'attention les invités. Hein. Je peux que souscrire aux constats et aux analyses qui sont faites. Je pense qu'il y a une question en tant que patron, surtout d'une petite boîte dont on est souvent le seul actionnaire. C'est une question de leadership, de vision, de valeur. Je suis pas de la même génération aussi. On a 40 ans. Nous, ce qu'on recherche, c'est plutôt le sens, hein, peut-être qu'on a plus de scrupules aussi que la génération précédente à entreprendre. Oui. Et donc, c'est plus simple pour nous aussi de concilier les deux que pour des patrons qui sont salariés par des boîtes du CAC 40. Hein.
Ça, bien. C'est évident. Merci beaucoup pour ce témoignage, Bastien Bruny. C'est intéressant, Pascal Demurger, ce qui vient d'être dit, parce que quand on a monté sa boîte, on n'y met pas le même cœur, la même âme que quand on est nommé à une grande boîte. Ça, c'est pas aussi un problème du capitalisme, j'allais dire français, mais c'est ça. Voilà, vous savez, parfois les Français, ils voient un grand patron qui est un jour patron de Total, le lendemain de patron de Sanofi, et puis le lendemain de patron de Renault. On est juste grand patron.
Je pense qu'on ne peut effectivement bien diriger une entreprise que dans la durée. Et à défaut d'avoir tout le monde ne peut pas avoir monté sa boîte et il faut bien des dirigeants à la tête des grands groupes, hein, et on ne va pas avoir simplement les propriétaires ou les descendants des fondateurs. Il faut bien des dirigeants, mais je pense qu'il y a un sujet de fidélité à son entreprise et de durée dans le management. En effet, le fait de voir certains patrons passer d'entreprise en entreprise, ça interroge quand même sur le niveau d'attachement, sur l'alignement au fond entre ces personnes et leur entreprise.
Et parfois avec des bilans qui questionnent, c'est un peu comme les entraîneurs de foot ou les sélectionneurs. Voilà.
Mais là, il y a un mal français.
Une entreprise, c'est d'abord une communauté humaine, et je pense qu'on ne peut bien exercer un leadership et diriger des gens que s'il y a effectivement un véritable attachement.
Alors vous réagissez dans quelques secondes, Alexandre Malafaille. On marque une pause, on se retrouve avec nos invités. Une poignée de secondes, à tout de suite. 19h40, passé de 1 minute, le débat du Club des idées qui se poursuit. On parle toujours du capitalisme social, éthique, écolo. Est-il possible chez nous, notamment en France? Je voudrais vous faire partager le témoignage de Magali Just qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Magali.
Bonsoir.
Vous habitez près de Nantes, vous avez repris l'entreprise familiale créée en 1913, ça date pas d'hier, 20 salariés, vous faites de l'alimentaire, des produits alimentaires bio aujourd'hui et de l'aide culinaire. Alors, vous avez fait quelque chose d'assez formidable, vous avez intégré des travailleurs handicapés avec la mise en place d'un intéressement aux bénéfices et l'organisation d'une journée dédiée aux 20 salariés de l'entreprise. C'est vraiment une politique sociale et une gouvernance sociale que vous avez décidé de mettre en place à votre échelle.
Alors c'est un enjeu qui existe dans l'entreprise depuis très longtemps, depuis oui. Maintenant même 78. Hein, c'est mon beau-père quand il a repris l'entreprise, il avait décidé de travailler aussi sur l'inclusion des personnes handicapées.
Et pourquoi, c'est important pour vous et pourquoi ce choix?
Alors je pense que c'était au démarrage une façon de pouvoir associer un service pour emboîter, hein, pour faire de l'emboîtage, donc tout en permettant à des personnes handicapées d'accéder à un travail. Donc il y avait cette volonté d'inclusion.
Et ça fonctionne. Alors, très bien, et ça marche.
Oui, ça fonctionne, et d'ailleurs on est allé encore plus loin, puisqu'aujourd'hui les personnes sont dans notre entreprise, hein, elles travaillent en direct et avec les autres personnes valides. Et on a notamment aussi embauché en janvier 2020 une des 4 personnes handicapées qui est maintenant salariée de Nature Aliments et on va dire dans le milieu ordinaire. Donc Bien. C'est aussi une autre découverte.
Ben formidable. Merci infiniment pour avoir partagé ce témoignage et cette histoire familiale avec nous, Magali Joss. Merci à vous. Alexandre Malafaille, quand vous parliez de dynamique qui est enclenchée, alors évidemment, il y a les grands groupes hein, qui ont des modes de gestion et de nomination différentes, mais il y a aussi ce petit maillage, parce qu'on sait que la France est d'abord des PME et des TPE,
3 millions.
Et là il se passe plein de choses.
C'est une des très grandes richesses de ce pays, et c'est vrai que parfois on ne retient dans les médias que les quelques comportements ou les quelques faits de cours qui fait que, parce qu'on est dans un grand corps, on va se protéger, on va se coopter les uns les autres, mais il y a une richesse d'entrepreneuriat en France, d'entrepreneurs de terrain et au sein de toutes les organisations patronales également, qui donnent beaucoup d'espoir de mon point de vue. On est immergé là-dedans parce qu'avec Sinopia, on a créé un indice qui s'appelle l'indice de la performance responsable de l'entreprise pour mesurer la performance de l'entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes. On est plongé là-dedans. Moi, je suis frappé par voir la qualité du tissu entrepreneuriat français et qui ne demande qu'une chose, c'est qu'on lui fasse davantage confiance et qui souhaite être davantage placé au centre parce que l'entreprise est un élément de confiance et de régulateur complémentaire comme un corps intermédiaire à part entière entre la société, les gens et puis le système.
Alors, vous parliez tout à l'heure du fait que les entreprises, l'activité et la bonne santé de l'entreprise doit être corrélée avec ce qui suit les rémunérations notamment des patrons et évidemment les dividendes versés aux actionnaires. Je voudrais qu'on prenne un exemple concret de ces dernières semaines, c'est Sanofi. Sanofi qui a dégagé en 2020 un bénéfice net de 12,3 milliards d'euros et qui distribuera à ses actionnaires 4 milliards d'euros de dividendes au titre de l'exercice annuel. Dans le même temps, le groupe a annoncé la suppression de 364 postes en France et n'a pas trouvé à ce jour... Le vaccin français, est-ce que vous trouvez qu'on est dans l'irrationnel ou on est dans quelque chose d'acceptable, Pascal Demurger ?
Moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Et je pense qu'il faut que l'État aussi prenne ses responsabilités. Est-ce qu'il est normal, en effet, qu'un groupe, alors Sanofi ou un autre, peu importe, est-ce qu'il est normal qu'un groupe, dans le même mouvement, la même année, distribue des montants extrêmement élevés de dividendes et réalise un plan social.
Oui.
Moi, je crois qu'il y a
Il y en a d'autres, Michelin, par exemple.
Mais il y en a plein d'autres. Mais je crois qu'à un moment donné, on marche sur la tête. Enfin, quelle est la vocation de l'entreprise et comment doit s'opérer le partage de la valeur.
Mais quelle est la marge de manœuvre du gouvernement là-dessus?
Il ne peut pas être
interventionniste, sinon c'est l'économie administrée, c'est le retour du colbertisme.
Enfin, sans aller jusque-là, pourquoi, par exemple, tout simplement, ne pas imposer les dividendes qui sont versés une année où il y a un plan social? On peut quand même prendre un certain nombre de mesures pour orienter le comportement des entreprises. Quand on voit par exemple dans le code des marchés publics qu'on va dans la commande publique choisir des entreprises indépendamment de la manière dont elles se comportent sur le plan écologique ou social, est-ce que c'est complètement normal et est-ce que l'État n'a pas un rôle d'encouragement du comportement vertueux des entreprises.
Jérôme Barthélémy, directeur général adjoint et professeur de stratégie et management à l'ESSEC. Je voudrais vous entendre sur le rôle de ces fameux fonds d'investissement qu'on appelle parfois les fonds vautours, qui rachètent de la dette, qui récupèrent la trésorerie, qui récupèrent les actifs et puis qui, au bout du bout, laissent mourir l'entreprise. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui marche sur la tête aussi?
Alors, les fonds d'investissement, effectivement, ont peut-être souvent une vision assez court-termiste, donc on peut reprocher. Après, dans certains cas, celui de Danone, par exemple, il joue un peu le rôle de bouc émissaire, en fait. Avec 3% des votes, on ne peut pas changer l'avis d'un conseil d'administration.
Oui,
il faut que les gens suivent, donc ils poussent.
On arrive à changer de patron, quand même.
Oui, on arrive, mais parce qu'en fait, il y a peut-être d'autres problèmes qui se posaient et qui ont incité les administrateurs à vouloir changer de dirigeant. Moi, je pense que je regrette un petit peu, c'est que pour essayer de faire passer le message de la responsabilité sociale des entreprises, on essaye toujours de dire, si on le fait, on va être plus rentable, on va être plus performant. Je pense que, en fait, personne n'a jamais pu prouver qu'une entreprise qui est plus socialement responsable est plus performante. Donc ça, c'est un peu déprimant. En revanche, ce qui me semble plus intéressant, on n'a jamais pu prouver non plus que les entreprises qui sont plus orientées vers la RSE sont moins performantes. Donc finalement, ça n'améliore pas forcément la rentabilité à court terme, ça ne l'augmente pas, donc pourquoi pas le faire en fait, hein.
Oui, pourquoi
pas le faire? Parce que finalement, la limite, ça serait que ça réduise la rentabilité, là on pourrait éviter.
Ça rejoint la préconisation de Goldman Sachs pour les introductions en bourse sur la parité homme-femme dans les conseils d'administration, où ils se sont aperçus que plus il y avait de femmes, plus l'entreprise qui était introduite en bourse avait une performance boursière intéressante le lendemain de ça. Et par conséquent, Goldman Sachs a émis un avis pour que chaque conseil d'administration soit à la parité. Voilà, c'est bien, parce que le souci de rentabilité rejoint l'approche éthique et sociale. Alexandre Malafaille, il y a aussi une question qui se pose. Faut-il nationaliser les entreprises stratégiques? Et j'ai vu qu'il y avait une liste qui circulait, secrète, à Bercy, de ces entreprises qui ont vu leur cours de bourse chuter et qui sont donc aujourd'hui des proies idéales. Alors hier, France KLM, l'action a chuté de 45%. PSA, moins 43%. Accor, Airbus. Est-ce que la nationalisation, ça peut être une option?
En tout cas, protéger les entreprises françaises qui sont aujourd'hui dans une situation de vulnérabilité parce qu'elles ont été très exposées à la crise du Covid, c'est une réflexion qu'il faut que l'État ait, ça c'est sûr. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut que l'État les rachète, ou est-ce qu'il faut qu'ils s'organisent ou qu'ils trouvent les moyens de faire en sorte que ces entreprises ne passent pas sous giron étranger? Si l'État pouvait être un peu stratège dans ce domaine-là, ça pourrait être utile, oui.
Pascal Demurger, le mot de la fin, il est pour vous.
En tout cas, cette question que vous venez de poser pose la question de la souveraineté économique, et à un moment donné, je crois aussi qu'il faut encourager les entreprises à créer leur valeur ajoutée en France. Demain, pourquoi, par exemple, ne pas imposer différemment les entreprises en fonction du pourcentage de valeur ajoutée qu'elles produisent en France?
Bien.
En tout cas, le mot de la fin, moi, je voudrais juste dire que si nous voulons, et je crois que nous le souhaitons tous, qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui s'engagent, il faut impérativement que derrière, des politiques publiques se mettent en place pour les y encourager.
Voilà, si vous avez besoin d'un programme économique, vous, futur candidat à l'élection présidentielle, on a un candidat là, qui a des idées à vous soumettre. Merci infiniment d'avoir été ce soir l'invité d'Europe Soir. Merci à tous les trois.
Merci.
Europe 1, Julien Bugier.